Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous débattons, nous commentons l'actualité aujourd'hui avec Arnaud Benedetti. Bonjour.
Bonjour.
Professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Votre dernier livre, Le progrès est-il dangereux, est parti chez Humain Science et je signale votre interview excellente vendredi dans le Figaro à propos de ce site du gouvernement qui distribue les bons points en gros sur les articles qu'on peut lire ou ne pas lire. Peut-être qu'on pourra en dire un mot puisqu'on va évoquer l'infantilisation, le discours un peu infantilisant parfois du gouvernement. Alexis Poulain, bonjour, journaliste, directeur bonjour. De la publication du Monde Moderne, bonjour à vous. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, bonjour Sophie.
Bonjour.
Et Éric Vérag, fondateur de blog politique Le Courrier des Stratèges.
Bonjour.
Toujours de très bons éditos sur ce site que je vous encourage fortement à aller consulter. Et puis vous êtes également chef d'entreprise. On va évidemment donc parler du 11 mai. Le déconfinement aura-t-il lieu? Des maires qui demandent à ce que les écoles ne rouvrent pas le 11 mai. Des différents organismes, les transports qui s'insurgent. Et puis le gouvernement qui nous dit, si vous n'êtes pas sage, si vous ne respectez pas bien le confinement, il n'y aura pas de sortie. Pan, pan, cucu, voilà. Masque, la grande distribution a-t-elle caché des choses? On l'a un petit peu évoqué avec notre pharmacien tout à l'heure. Petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention. Commençons avec vous, Éric Vérag.
Non, je vais encore dire quelque chose qui va vous agacer, Valérie.
Oh, mais pourquoi? Mais... pourquoi c'est présupposé?
Moi, je voulais faire un coup de cœur au traitement contre le coronavirus en Afrique, puisque on nous avait promis il y a 2 mois qu'il y aurait une hécatombe en Afrique à cause du coronavirus. Et on s'aperçoit qu'en réalité, c'est probablement le continent qui s'en sort le mieux, alors pour tout un tas de raisons. Mais certaines d'entre elles tiennent quand même aux choix thérapeutiques qui ont été faits, puisque vous savez que l'Afrique utilise largement depuis des années et des années la chloroquine, l'hydroxychloroquine, pour traiter le paludisme. Et manifestement, quand même, la généralisation de ce traitement à la population et aussi à l'artémisia, puisque c'est une plante que le gouvernement malgache a reconnue comme un traitement officiel contre le coronavirus, cette stratégie thérapeutique semble quand même porter ses fruits, puisqu'il y a très peu de morts en Afrique du fait du virus. À ce stade, soyons prudents, peut-être que des statistiques vont se révéler très différentes dans quelques semaines, mais à ce stade, on peut penser qu'en tout cas, l'Afrique a fait des choix économiques et thérapeutiques intelligent dans le traitement de cette maladie, loin de nos polémiques idéologiques françaises et européennes.
C'est une théorie, mon cher, effectivement, Éric Vérag.
On vérifiera dans quelques semaines si c'est vrai
oui,
ou pas.
Sauf qu'on ne sait pas si c'est la chloroquine qui fait que l'Afrique a été moins contaminée ou si c'est le fait qu'elle ait une population très jeune, comme c'est le cas au Cambodge, comme c'est le cas dans d'autres pays qui n'ont pas été touchés. Donc voilà, beaucoup de pays, je vous signale, je suis pas, j'ai pas d'avis sur la chloroquine. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de preuve jusqu'à maintenant. Donc non, mais il n'y a pas eu de preuve. Bon, on va pas refaire le débat chloroquine, mais c'est vrai que ce qui est avancé aussi pour l'Afrique, c'est la jeunesse de la population et puis peut-être le climat également qui fait que le virus n'est peut-être pas. Mais bon, j'entends votre coup de cœur. Alexis Poulain.
Moi, c'est un coup de gueule contre nous tous, collectivement, d'être un peuple si apathique quand il se fait renier ses libertés pour quasiment rien, on va dire. Mais de voir que les annonces en fait, de la fin du secret médical n'aient soulevé aucune vague de contestation dans les oppositions, mais même globale, que personne ne se soit arrêté pour dire « il faut maintenant arrêter les frais », moi, ça m'inquiète parce que cet état d'urgence prolongé jusqu'en juillet, il n'y a aucune raison pour le faire de cette façon-là. Il n'y a aucune raison pour en finir avec le secret médical. Il n'y a aucune raison pour vouloir confiner les gens ad vitam aeternam de la façon dont c'est fait, c'est-à-dire n'importe comment. Et je trouve que la patience des Français et leur résilience, quand même à dire le chef de l'État, m'inquiète plus qu'autre chose parce que ça veut dire qu'on est prêt à accepter beaucoup de lois idiotes et ça fait de nous des idiots. Donc j'aimerais qu'on soit un peu plus désobéissant comme les maires qui montrent l'exemple, en disant non, le 11, c'est pas possible, on va pas le faire, on va faire correctement les choses. J'aimerais qu'on soit un peu plus conscient aussi que l'esprit critique dans ces temps troubles, il est extrêmement important quand on voit que le gouvernement veut faire maintenant un site officiel des nouvelles officielles de l'information transparente et de qualité approuvée par le gouvernement. J'aimerais que les Gaulois réfractaires se montrent un peu plus réfractaires dans ces temps troubles parce que ce qui est en train de se passer est proprement effrayant. Et j'aimerais qu'on en prenne la portée. Voilà, parce que c'est bien de dire sécurité, sécurité. La réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est qu'on est en train de perdre nos libertés et sans rien faire.
Oui, je partage ce que dit Alexis. Il ne faudrait pas qu'il y ait un effet de palier qui nous fasse intérioriser, qui nous fasse intérioriser un certain nombre de contraintes qui apparaissent parfois totalement dérogatoires d'un certain nombre de principes qui sont les principes notamment de liberté publique. Je trouve qu'il y a aujourd'hui un drôle de sentiment qui est en train de se diffuser dans le pays comme selon lequel nous devrions accepter, sous prétexte d'une urgence sanitaire qui est réelle, un certain nombre d'empiètements quant à nos libertés individuelles et publiques. Je signale un très très bel article qui a été publié dans le Figaro il y a plus d'une semaine, une interview du philosophe Pierre Manon, qui dit très justement que nous sortons à bas bruit progressivement, et ça ne date pas seulement d'ailleurs de cette crise, d'un régime démocratique et pluraliste. Je crois que franchement, cette question des libertés individuelles, cette question des libertés publiques, elle doit être posée aujourd'hui, parce qu'il y a une forme finalement d'acculturation à des principes qui ne sont pas ceux des démocraties libérales, et ce qui est très étonnant d'ailleurs, que ce sont ceux qui se veulent les défenseurs des démocraties libérales qui ont une pratique pour le moins aujourd'hui illibérale. Je trouve qu'il y a une contradiction dans leur comportement. Finalement, les illibéraux ne sont pas peut-être là où on pense.
Une réaction, Éric Verhaeghe.
Je trouve que,
Sophie, on vous a pas entendu. Entièrement
d'accord avec Alexis Poulain, ça mérite d'être signalé, vraiment entièrement d'accord avec vous.
Bah, dites donc.
C'est invraisemblable ce qui se passe au niveau de l'atteinte des libertés publiques, de l'infantilisation, et il y a énormément de choses beaucoup plus, j'allais bien dire, beaucoup plus graves. Oui, la liberté des entreprises, alors je sais que c'est moins votre conviction, mais si vous saviez les injonctions contradictoires que nous avons, les attaques que nous subissons, les attaques quand on commande des masques, les attaques quand on n'en commande pas, les attaques parce que il faut laisser les salariés en télétravail, qui ne veulent plus revenir, hein, parce que le climat anxiogène que le gouvernement a créé, est-ce pour protéger les gens et leur faire peur? Moi, je ne pense pas que la peur protège du virus. C'est une angoisse absolue. Je ne suis pas à Paris, je suis à la montagne. Vous avez des gens paniqués seuls dans leur voiture avec un masque. Vous avez des gens, vous croisez une personne par demi-journée, elle s'écarte à 10 mètres. Il y a une espèce d'anxiété. Et puis, ce qui est très grave, c'est que les gens ne comprennent pas les choses de la même façon. Il va y avoir les désobéissants que vous souhaitiez. Malheureusement, ça ne va pas être les bons. Au déconfinement, vous allez avoir des jeunes qui prévoient, et j'en ai rencontré, de faire des gigas tough, comme ils disent. Vous allez avoir des gens qui vont exploser en sortant dehors. Vous allez avoir des gens terrifiés, parce qu'il y a beaucoup de gens terrifiés qui sont convaincus qu'ils vont mourir dans l'heure s'ils sortent. Vous avez des gens qui sont restés chez eux, qui ont une baisse de défense immunitaire, etc., qui n'ont pas mis le nez dehors. Vous avez des absurdités d'approvisionnement dans les supermarchés. On marche sur la tête. Et j'en parlerai tout à l'heure à l'occasion des coups de gueule. Il y a encore quelque chose qui est beaucoup plus grave, à mon avis.
Donc voilà, Eric, un mot sur ce qu'a dit ce sujet intéressant.
Je pense en effet que c'est notamment l'affaire du contact tracing, pour utiliser cette expression, c'est-à-dire les anges gardiens, quelle étrange expression de la part d'un gouvernement républicain, laïque, qu'on met en place des anges gardiens. Je pense que cette affaire d'anges gardiens, qui peut-être vont nous révéler plein de mystères de la création, je pense que cette affaire va être une ligne rouge que le gouvernement ne devrait pas franchir, parce que, à mon avis, symboliquement, ça va être compliqué de revenir en arrière, et dans l'esprit des gens, je pense qu'il va y avoir une prise de conscience très brutale. Je ne suis pas d'avis que les Français sont apathiques. Je pense qu'ils sont patients. Je pense qu'ils sont plutôt disciplinés et plutôt loyalistes.
Et inquiets.
Mais je pense que le jour où on casse la corde à force de leur tirer dessus, on ne peut plus revenir en arrière. Et je me demande si le gouvernement n'est pas en train de la casser avec cette prorogation de l'état d'urgence. On reparlera peut-être aussi de la disposition qui devrait garantir l'impunité des ministres à l'occasion de cette prorogation. Ouais. De l'état d'urgence. Je pense que ça va trop loin.
Sous couvert de protection des maires, d'ailleurs.
J'ai dit hier que les maires étaient les boucliers humains des ministres, parce que personne n'osera canarder les ministres en disant on va mettre les maires en position difficile en même temps. Mais je pense que ça va trop loin et je pense que c'est dangereux pour le gouvernement de franchir cette ligne rouge.
Oui, mais c'est très dangereux aussi d'avoir des épées de Damoclès indéfiniment, y compris les chefs d'entreprise, qui peuvent être accusés, on est en train de se demander si le coronavirus va être une maladie professionnelle ou pas. S'il y a un salarié qui tombe malade, au risque d'avoir un procès, on trouvera toujours une bonne raison. Et je trouve que, vous avez un gouvernement qui lui-même a peur, qui ne déconfine pas, parce que le Premier ministre, on le voit, il est en train de se protéger. Il a une vingtaine de procès qu'il menace. Et je pense que c'est pas ça du tout d'aller menacer tous ceux qui nous gouvernent d'être flagués dans quelques temps.
Mais Sophie, il faut distinguer ceux qui sont détenteurs d'une autorité. Oui, il faut distinguer ceux qui sont détenteurs d'une autorité publique et qui ont donc une responsabilité dans la mise en œuvre politique de la gestion de la crise de ceux qui ne sont pas détenteurs de cette autorité publique. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on voit très bien que la tentative des parlementaires de La République En Marche qui ont consigné une tribune dans le journal du dimanche, elle vise encore une fois, sous couvert de protection des maires, et ce qui est tout à fait logique en l'occurrence, parce que les maires ne sont pas responsables de la mauvaise gestion de cette épidémie, elle relève aujourd'hui du pouvoir central et de l'État, mais qu'on voit bien que sous couvert de cette protection, ce qu'on vise en fait comme objectif final, c'est de pouvoir protéger ceux qui sont en l'occurrence, in fine, responsables de la gestion, pour le moins aléatoire, de cette crise.
Oui, mais est-ce que vous pensez sincèrement qu'ils vont être meilleurs si on les menace de procès? Est-ce que vous pensez sincèrement... C'est, Dieu sait si je les critique, mais c'est quand même terriblement difficile. On a le droit de changer d'avis. Supposons qu'il y ait une recrudescence du virus. Moi, je pense que ce serait une aberration de repousser le confinement. On ne va pas laisser les Français confinés. Après avoir été traumatisés, ils finissent par une grande goutte. Je suis d'accord. Mais je trouve que juger la décision publique, c'est trop dur.
Non, mais alors peut-être qu'ils comptent effectivement sur le syndrome de Stockholm, mais ça n'a pas marché comme ça. Hein.
Et non, on va marquer une pause et alors on a pris beaucoup de temps, coup de gueule d'Arnaud Benedetti et de Sophie de Menton, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Allez, on est un petit peu en retard, mais vos coups de gueule et coups de cœur nous amènent évidemment sur des sujets qu'on allait traiter d'une manière ou d'une autre. Sophie, c'est un coup de gueule intéressant parce que je voudrais juste préciser une chose, parce qu'il y a des auditeurs qui vous aiment pas, Sophie, qui disent que vous êtes la représentante du capitalisme, etc. Vous avez une position beaucoup plus nuancée quand même, parce qu'on vous accuse d'être macroniste. Or, vous tapez également sur Emmanuel Macron. Et là, ça va être le cas avec cette histoire de test absolument invraisemblable, parce que vous travaillez, vous êtes à la tête d'une petite association, enfin d'une très belle association patronale. Racontez-nous ce qui vous est arrivé.
Oui, alors d'abord, je dis ceci, d'abord, je ne veux pas taper vraiment sur Emmanuel Macron.
Pardon, vous êtes en train de casser ce que j'étais en train de dire. Bon, allez-y.
Elle ne tape dessus qu'en soirée privée.
Voilà. Je vais taper très violemment sur un système français et un système administratif, un système de transmission du pouvoir, etc. Alors, je voudrais être justement nuancée parce que c'est grave. Il se trouve qu'à la tête, effectivement, du mouvement éthique, c'est une magnifique association patronale, libre d'esprit, indépendante. Nous avons, dès le départ, essayé de commander des masques, de voir au sein du mouvement les entreprises qui pouvaient approvisionner en masques et en tests. On y a pensé tout de suite. Ça fait donc longtemps qu'on le sait. Et là, j'ai vécu, par l'intermédiaire de cette entreprise, quelque chose d'ubuesque. Y compris, d'ailleurs, avec des gens formidables, il faut le dire, au sein des administrations. J'ai organisé une contrôle avec la Chine pour voir ce qu'on pouvait faire en matière d'importation de tests sérologiques, c'est-à-dire des tests qui vont diagnostiquer si vous avez été en contact avec le virus, non pas des tests destinés à savoir si vous êtes malade. c'est 15 jours après, est-ce que vous avez des défenses immunitaires qui ont fabriqué donc une sorte de protection, etc. Bon.
Et, elle est à l'essentiel, Sophie.
Ben oui, non, mais l'essentiel, c'est un tel process. Alors, pour essayer de faire court sur les tests, tiens. Les masques, on sait ce qui s'est passé, c'est terrible. Il y a tout mon soutien à la grande distrib, hein, au passage. Les tests, nous avons fait une conférence téléphonique avec la Chine, avec un laboratoire chinois, qui est un laboratoire d'État, qui est le troisième, avec des représentants du ministère de la Santé, du ministère des Entreprises, de Bercy, parce qu'en France... Tout le monde doit, c'est interministériel. Donc, vous imaginez l'accord qu'il peut y avoir entre la santé, Bercy, l'entreprise, etc. Et puis, on est abouti à la chose suivante, c'est que on a commandé un test pour le faire juger par l'Institut Pasteur. On nous a dit, il est impossible, ce test était déjà CE. On nous a dit, ça n'a pas de valeur. Je vous le dis au passage, hein, CE, ça veut dire Communauté Européenne. Rien, ça veut rien dire. Bon. Nous avons donc acheté, nous-mêmes à nos frais, ces tests, on les a envoyés à Pasteur. On devait les avoir très rapidement. On a eu les résultats un mois après. Ces résultats qui devaient être affichés pour tout le monde, il devait y avoir une plateforme où vous pouviez acheter des tests sérologiques, ce qui était valable, pas valable. Pas de plateforme, on nous l'a promis depuis je ne sais combien de temps. Quand on voit le temps que ça met pour partir de Chine, pour arriver, etc., c'est complètement fou. Ensuite de ça... alors là, je pose une vraie question et ça m'ennuie parce que c'est une question grave. L'Institut Pasteur, on en est tous très fiers. Il ne faut pas oublier que c'est un laboratoire privé. C'est un laboratoire privé qui a seul le pouvoir de dire si les tests sérologiques sont bons.
La fondation. Et
on dit que le seul test sérologique efficace à 100% était celui de l'Institut Pasteur. Je pose une question. Si ça arrivait dans le secteur privé pour des entreprises ou pour n'importe quel produit, on dirait, mais en fait, c'est une concurrence déloyale, une distorsion, etc. Donc moi, je me pose vraiment la question. Et on va avoir le même problème. Pour l'instant, les boîtes ont plus le droit de tester leurs salariés alors qu'on nous encourageait à le faire. J'étais au centre de ça. Alors finalement, elles auront peut-être le droit, si les salariés sont d'accord, il n'était pas question de tester un salarié qui n'était pas d'accord, il piquait en douce. C'est n'importe quoi. Donc on n'a pas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est
donc,
très grave.
En gros, vous expliquez, c'est-à-dire qu'il
n'y a pas les tests.
Oui, vous n'avez pas les tests parce que, en gros, si je comprends bien, il y a
un monopole de Pasteur.
Il y a un monopole de Pasteur, c'est ce que vous êtes
alors,
en train de dire.
Il semble qu'il y ait un monopole de Pasteur, même s'il y a d'autres labos qui le font, mais le monopole du jugement, c'est Pasteur. Et ensuite, on est en train de revivre le coup des masques. Ils n'ont pas de test. Au début, il ne fallait pas de masque. D'ailleurs, il y avait quand même, c'est extraordinaire que la responsable de la communication au gouvernement soit encore là, quand elle dit, mais enfin, moi, je ne sais pas mettre un masque. Hein. Il ne faut vraiment pas les mettre, c'est ridicule. On a quand même eu ça.
Bon.
Eh bien, on est en train de recommencer avec les tests sérologiques. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi en faire, on n'en a pas besoin, et d'ailleurs, on n'en a pas. Voilà, c'était mon coup de gueule, mais je suis très inquiète.
Oui, encore une fois, c'est le mensonge qui prévaut, puisque le gouvernement
Alexis
parle
Poulain
de 700 000 tests par semaine. Or, à peu près...
On en a 450 000 aujourd'hui.
Oui, en disant, mais 750 000, on est loin.
Ouais. Arnaud Benedetti, c'est effectivement...
Bon, apparemment, en tout cas, on devrait atteindre... Les chiffres qui ont été annoncés par Édouard Philippe lors de la présentation de son discours sur la stratégie de déconfinement, c'est de dire qu'à partir du 11 mai, on aurait 700 000 tests. Vraisemblablement, ce chiffre, encore une fois, ne sera pas atteint. C'est une nouvelle fois un effet d'annonce. On devrait, selon en tout cas les différentes sources, hein, pouvoir atteindre à peu près la jauge de 450 000 tests à partir du 11 mai, mais extrêmement difficilement. Ce qui montre encore une fois que de toute façon, on le voit bien, la question du déconfinement, c'est les moyens associés. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens associés pour manifestement opérer un déconfinement dans de bonnes conditions.
Oui, mais Arnaud,
il va se passer... Pardon.
Juste
allez-y,
quand
Sophie.
On dit « on n'a pas les tests », vous dites quoi par « on » Arnaud ? Parce que si on laisse regarder, c'est comme les masques, la grande distrib, elle s'est équipée, on en peut ce qu'on veut, mais elle s'est équipée. Les boîtes, elles sont en train, depuis un mois, de commander des tests sérologiques, d'essayer de les faire tester. Donc le « on », c'est l'État qui n'arrive.
Ah ben, le « on », c'est l'État, bien évidemment.
D'accord,
c'est l'État.
Mais on laisse pas les entreprises agir.
Regardez, les masques, c'est exactement la même chose pour les masques. Les masques, ce sont les régions qui, très souvent, je veux dire, ont pallié à l'insuffisance de l'État, en l'occurrence.
Merci.
Ouais. Mais il va se passer la même chose avec les tests que ce qui s'est passé avec les masques. Et on entend la petite musique qui est en train de monter les différents articles. Ça ne sert à rien de tester tout le monde. Les tests ne sont pas forcément fiables, etc., etc. Éric Vérac.
Oui, mais moi, je n'interprète pas autrement Je reviens sur cet amendement parlementaire qui proposera une impunité ou une immunité pour le gouvernement. Je n'interprète pas autrement cette volonté d'instaurer cette impunité, c'est-à-dire que je pense qu'Édouard Philippe a pris conscience que son administration ou ses administrations n'avaient pas été capables de traduire dans les faits les promesses qui étaient faites. Je pense que un certain nombre de hauts fonctionnaires ont dit « mais si c'est possible, mais si ». Et on s'aperçoit que finalement ça n'a pas été fait, parce que les services ont traîné, parce que les services ont pinaillé, parce que tout le monde s'est mordu la queue dans des réunionnites interminables, et que finalement, face au désastre auquel Édouard Philippe s'attend, et je pense qu'il sait que ça ne va pas bien se passer, et qu'on ne pourra pas déconfiner faute d'avoir réalisé les engagements qu'il a pris il y a un mois. Face à ça, il prépare une sortie, ou en tout cas un bouclier d'immunité, comme on dit, d'Acolanta, parce qu'on s'attend au pire, et ce n'est que chronique d'un désastre annoncé.
Mais regardez sur la question des masques, vous avez deux documents qui ont été, je crois, excipés par Challenge il y a quelques jours, où on a une réunion de médecins qui, au niveau de Santé, c'est Santé Publique France, en 2018 fait état. En 2018 fait état d'un manque criant au niveau des stocks de masques, et il y a une note de la DGS, de la Direction Générale de la Santé, qui elle-même alerte, en l'occurrence Monsieur Salomon, pour le coup, alerte sa tutelle de ce problème. Donc on a là deux documents administratifs qui sont, disons, des documents extrêmement cruels pour la façon dont l'État a manqué de réaction par rapport à cette question des masques, et c'est la même chose pour les aujourd'hui.
Il pourrait se rattraper au moins, il pourrait se rattraper en essayant d'avoir un peu confiance dans les entreprises, en disant équipez-vous, etc. Or, il faut interdire. Ils bloquent les prix, c'est extraordinaire aussi ça. Il y a des gens qui ont commandé des masques, des entreprises que je connais, il y a 3 semaines, ça valait une fortune avec le déplacement, etc. Et là, tout d'un coup, on bloque le prix. À quoi ça arrive de bloquer le prix ?
Bah, ça rime au fait qu'il y a des gens qui, d'être un peu trivial, se font des couilles en or avec la vente de masques, et qu'il y a un nouveau métier qui s'est improvisé, qui est importateur de masques, et certains en profitent très largement. Et c'est vrai que le prix des masques va être un vrai problème pour les familles. 1 euro le masque, je ne sais pas comment vont faire les gens pour pouvoir les payer. Mais on va en parler tout à l'heure. On n'a toujours pas eu le coup de gueule d'Arnaud Benedetti, mais ça fait partie des sujets que je voulais aborder, et que quelqu'un m'explique comment la France envisage de ne pas imposer de quarantaine pour toutes les personnes en provenance de l'Union européenne, de l'espace de Schengen ou du Royaume-Uni, alors que nous, on peut pas aller à plus de 100 km. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, avec Éric Vérague, Alexis Poulain, Sophie de Menton et Arnaud Benedetti. Alors Arnaud, je vous laisse la parole pour votre coup de gueule.
Ah ben je crois que vous l'avez déjà dit.
On a un souci avec votre connexion, visiblement. Il y a de la friture sur la ligne, comme on dit. On va attendre de vous reconnecter. Juste avant de donner la parole à Arnaud, il y a une auditrice qui m'a envoyé une pétition à signer. J'avoue que je tombe un peu de l'armoire. Non à la vente aux enchères du mobilier national. Oui. C'est-à-dire que le mobilier national envisage une vente à l'encan de certaines de ses pièces lors des journées du patrimoine, les 20-21 septembre, au profit de la Fondation Hôpitaux de France, présidé par Madame Macron. Déjà sur le fond, je trouve que vendre le mobilier national, c'est scandaleux. Mais en plus, il y a une question que je me pose. Quand on voit ce que dit cette pétition depuis la présidence, on a la team Adidas qui veut gagner des millions. On a un nombre de collectes invraisemblables pour acheter du matériel de première urgence pour le personnel soignant, des charlottes, des respirateurs. Mais bon sang, mais est-ce que c'est à la solidarité d'aller acheter des charlottes et des surblouses pour nos soignants ? Moi, je n'en peux plus de ces cagnottes. Je trouve que c'est formidable, que les Français ont beaucoup d'imagination, qu'ils sont généreux. C'est génial, mais sur le fond, c'est pas normal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça me met en colère.
Tout à fait d'accord avec vous. Alors, Alexis, que le mobilier national, c'est hallucinant, parce que c'est ce qu'on appelle vendre les bijoux de famille, d'ailleurs. Mais de toute façon, ils vont tout vendre. Ils se ruinent pour des trucs absurdes qui n'ont pas de sens. Et donc, il faut que les gens en prennent conscience. Alors, cela dit, les cagnottes, je suis archi contre. Qu'on soit obligé de céder soi-même, il y a un moment, quand l'État ne fait pas le boulot, qu'est-ce qu'on fait ?
Non, c'est ça le problème. C'est que personne ne fait le boulot.
Alexis Poulain.
Là, déjà, sur la vente du mobilier national par la première dame, on est en dehors de la légalité. Hein. C'est vraiment une décision de cour qui fait que le responsable du mobilier national accepte finalement parce que ça fait un coup de com'. Mais c'est scandaleux, encore une fois. Et Laurent Mauduit, qui passe sur Sud Radio, l'a écrit dans Mediapart, d'ailleurs. Le pire, c'est que tous les dirigeants sont heureux, en fait, de faire appel à... Eh bien, au bon vouloir hein, des uns et des autres, avec des cagnottes, parce que finalement, l'État n'est plus capable d'organiser autre chose que des cagnottes, quoi. Et même au niveau européen, ils sont très contents de s'être réunis à 25 pour dire « Ah ben, on va faire une cagnotte ». C'est quand même pas mal pour un vaccin, on va faire une cagnotte, parce qu'on n'a plus que ça à faire. Je trouve ça triste, ça dit l'État aussi… des structures de choix politiques publics des États en général, parce que les gens qui sont élus depuis une quarantaine d'années n'ont eu comme métier que de démanteler l'État par petits bouts. Ils y sont arrivés.
Démanteler l'État, vous plaisantez, c'est un monstre tentaculaire, l'État.
Démanteler les moyens d'action de l'État. Alors eux, tout le monde travaille bien, vous avez, y a aucun problème. Mais le problème, c'est que les moyens d'action de l'État, le choix politique, le choix qui a été fait de rendre le politique irresponsable, de rendre le politique finalement apeuré par le choix, parce que c'est ça ce qu'on voit en ce moment. Hein. Édouard Philippe a peur de faire des choix, tout le monde a peur de faire des choix, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a la responsabilité politique. Donc des politiques incapables depuis des années. Aujourd'hui, on en est là avec simplement des ministères qui ne servent à rien, qui sont comme des poulets sans tête, disons-le, qui font appel à la solidarité nationale, internationale, peu importe, et qui attendent beaucoup du privé, notamment. Alors, ils empêchent le privé hein, de faire des choses, mais ils attendent quand même du privé beaucoup en termes de financement, en termes d'aider là où l'État ne peut plus rien. C'est la suite logique de politiques qui ont été mises en place de ces 20-30 dernières années.
Mais qu'on en soit à faire des cagnottes pour équiper les hôpitaux, ça paraît assez dingue.
On en est là. C'est le choix de société.
Alors, Éric Vérag.
C'est de la pure démagogie. Mais enfin, moi qui ai travaillé dans le service public, je trouve quand même mieux que on vende des meubles du mobilier national plutôt qu'on les retrouve dans le logement de certains fonctionnaires qui y ont accès.
L'un n'empêche pas l'autre.
Je trouve que c'est quand même plus utile pour le service public, mais il ne faut pas se leurrer. Ce que ça rapportera, ce sera purement symbolique. Et l'État n'en a pas besoin. Il faut redire que les hôpitaux publics, aujourd'hui, n'ont pas besoin d'argent. Il y a un problème d'allocation de management, mais il n'y a pas de problème de moyens. Les hôpitaux ne manquent pas d'argent pour acheter des médicaments.
Moi j'y vois un intérêt,
c'est quoi le problème?
On va poursuivre les gens qui ont acheté le mobilier national parce qu'ils sont riches, ils ont de l'argent. Donc on dira comment ce salaud qui a acheté le mobilier national. Donc ça, c'est absolument extraordinaire.
Non mais alors Arnaud Benedetti sur ces cagnottes parce que j'entends ce que vous dites Éric Vérag, l'hôpital ne manque pas d'argent, sauf que nos soignants manquent de blouses quand on voit, alors c'est dès qu'ils ont des sacs poubelles parfois, qu'ils manquent de charlotte, qu'ils ont manqué de tout.
Parce que les services d'achat n'arrivent pas à acheter. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent, les procédures qui sont mauvaises.
C'est tout simplement l'illustration d'un État schizophrène qui s'est désarmé sur ses missions essentielles, mais qui, par contre, a mis en place des procédures, multiplié des couches successives d'administration, qui réglemente à marche forcée et qui ne remplit pas ses missions. On le voit aujourd'hui. Je prendrai un exemple qui est loin de celui des cagnottes, mais qui est quand même tout à fait révélateur. On a mis quand même près d'un mois et demi a publié un décret au journal officiel pour permettre aux pharmacies de pouvoir délivrer des masques. C'est-à-dire, quand même, on dit long sur le processus administratif français où on n'est pas capable, alors qu'on nous dit qu'on est dans une situation de guerre, de mettre moins de 24 heures pour permettre aux pharmacies de vendre des masques. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est absolument ahurissant.
Que les bureaux de tabac avaient le droit, alors que les bureaux de tabac avaient le droit de vendre.
Oui, bien sûr.
Enfin, Arnaud, il y a un sujet derrière. Est-ce que c'est simplement de l'incompétence administrative ou est-ce que d'emblée...
Non, c'est de la boursouflure administrative.
Est-ce que le ministère de la Santé avait d'emblée décidé qu'il fallait préserver le marché des grandes surfaces. Et moi, j'ai une vraie question là-dessus, c'est-à-dire que j'ai la conviction que le lobbying du commerce et de la distribution a été suffisamment efficace.
Mais c'est pas le ministère de la Santé, c'est Bercy en l'occurrence. Hein.
Oui, c'est Bercy, c'est un vrai sujet. Je suis très étonné qu'on ait empêché les pharmacies de vendre jusqu'à ce que les hypermarchés aient le droit de vendre. Et cette concomitance ou cette coïncidence de date me trouble parce que, en effet, avoir mis un mois et demi pour autoriser les pharmacies à vendre, c'est curieux. Et je pense que ce serait bien qu'on fasse qu'on mette les choses au clair sur ce point.
Oui, mais Eric,
mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas autorisé les ou demandé aux entreprises, enfin ce qui a été fait au départ, LVMH ont été les premiers à acheter des masques pour l'État. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis pour le coup les sociétés qui étaient capables de payer cash, qui avaient les contacts sur place, de commander des centaines de millions de masques.
Mais ils les ont pas mis à disposition. Parce qu'en fait, on est colbertiste dans l'esprit, mais on ne l'est pas dans la pratique, en l'occurrence. Et je pense que le fait que de déléguer à des entreprises privées le soin de pouvoir produire des masques ne correspondait pas au logiciel de l'administration, tout simplement.
Alors,
sauf qu'ils ont accepté ceux de LVMH.
Oui, c'est vrai, mais pour répondre à Eric, il faut pas oublier que la grande distrib, d'abord, elle a fait son boulot de s'approvisionner en masques. Oui. Deuxièmement, on l'a fait vendre à prix coûtant. À prix coûtant, ce qui est une décision de l'État, d'abord incompréhensible, parce que, je veux dire, on n'a pas le droit de vendre à perte, mais c'est limite. Prix coûtant, on n'a pas le droit non plus. Donc, il faut pas non plus taper trop sur cette grande distribution.
Mais moi, je tape pas. Sophie, je ne tape pas sur la grande distribution. Je m'interroge sur le processus administratif et sur les raisons de la lenteur administrative sur cette question. Moi, j'aurais été président de la Fédération de la Grande Distribution, j'aurais dit au gouvernement, j'accepte d'envoyer mes caissières au caisse-pipe, en échange, je veux une garantie sur un certain nombre de marchés. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé. Je dis juste que si moi, j'avais été en charge de négocier les opérations, j'aurais en effet dit, j'endosse le risque de rendre malade un certain nombre de caissières et de garder les magasins ouverts. En contrepartie, je veux ça, ça et ça. Je le redis, ce n'est pas forcément ça. Ce qui s'est passé.
Ouais. Non. Ils ont même pas
je voudrais qu'on passe au sujet que vous voulez évoquer, Arnaud. Si vous pouvez m'expliquer.
Vous l'avez évoqué, Valérie, avant la coupure. C'est cette décision, finalement, d'ailleurs, qui est tout à fait contradictoire aux annonces du ministre de la Santé samedi. En d'autres termes, toute personne à l'intérieur de l'espace Schengen, venant de l'espace Schengen ou venant du Royaume-Uni, ne sera pas soumise à une quarantaine, ce qui est quand même assez surprenant. Dans la mesure où, d'abord, on sait qu'il y a des possibilités d'infection, et ensuite parce que, comme vous l'avez justement rappelé, on va devoir se munir d'un Ausweis, pardonnez-moi cette expression, passer pour faire 100 kilomètres à l'intérieur du territoire, et que, alors que vous venez du Royaume-Uni, vous pouvez rentrer sans problème en France. Il y a quand même une différence de traitement qui est assez choquante, mais je trouve que depuis le début, de toute façon, tout le discours de l'exécutif est un discours qui vise, on l'a dit, à être infantilisant, mais aussi à être injonctif vis-à-vis de la société française, qui, moi je le rappelle et je ne cesse de le dire, c'est plutôt, compte tenu des contraintes qu'on a fait peser sur ses épaules, c'est plutôt bien comporté depuis 6 semaines.
Oui, alors, une réaction
Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il y a eu une bonne discipline des Français dans ce confinement. Et encore hier, je sortais dans les rues.
Il y a eu des amendes, hein.
Il y a eu des amendes, mais si je regarde, je suis d'accord. Mais si je regarde ce qui s'est passé samedi, par exemple, dans les rues de Belleville à Paris, beaucoup de gens étaient dehors, mais les règles de distanciation étaient quand même très respectées. Et globalement, les gens font attention à ne pas faire n'importe quoi.
Mais c'est ça, comme les Français sont responsables, ils sont très conscients de ce qu'il faut faire. Qu'on les traite comme des idiots, comme des enfants, en leur empêchant d'aller se balader en forêt, de retourner sur les plages, de faire en fait des choses simples hein, pour que la vie soit la vie. Là, on est dans quelque chose d'idéologique et de dangereux, à mon avis, parce qu'il n'y a aucune raison et les gens ne comprennent pas. Et cette histoire, effectivement, des 100 kilomètres, elle n'a aucun sens sanitaire, aucun sens de rien du tout. C'est comme la météo Covid avec cette carte des régions rouges, vertes, jaunes, ouais. Où on voit, c'est comme Interville, vous avez les responsables départementaux qui appellent pour dire « Ah non, mais je suis pas rouge, attendez, moi je suis vert, c'est n'importe quoi. » Enfin, c'est quoi ça? C'est du degré zéro de la com. C'est, ça n'a rien à voir pour aider à faire face à cette crise sanitaire. Par contre, ça rend les gens encore plus colériques, encore plus nerveux. Et je pense effectivement, comme le disait Eric tout à l'heure, on est obéissant, on est bien élevé, on est sage, mais il ne faudrait pas pousser mémé dans les orties. À un moment, ça va péter. Et là, ils sont en train de le faire, j'ai l'impression.
Arnaud Benedetti, sur l'infantilisation, c'est un mot qu'on voit beaucoup revenir sur les réseaux sociaux, dans les commentaires. Le sentiment qu'on parle aux Français comme à des enfants et que le 11 mai, on ne déconfinera pas si vous n'avez pas respecté les règles.
Est-ce que vous avez entendu le ministre du Tourisme, le secrétaire d'État au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoine, vendredi ou samedi, je crois, où on interrogeait sur la situation absolument catastrophique, faut-il le rappeler, des entreprises touristiques. Et le secrétaire d'État au tourisme n'a pas trouvé mieux que de nous délivrer le principal message qui était le sien, c'était de dire « Ah, pour les Français, pour les vacances, on verra, ça dépendra de leur comportement. » c'est une communication qui est totalement à contre-courant de secrétaire d'État au tourisme. On attend aujourd'hui des réponses concrètes sur la façon dont on va pouvoir peut-être permettre un certain nombre d'entreprises, il y en a une sur deux qui risque de disparaître dans ce domaine, des TPE. On attend de savoir comment va être prise en compte la perte d'exploitation, par exemple, comment va être prise en compte la perte d'exploitation des établissements qu'on a fait fermer en 4 heures, je rappelle. Le Premier ministre a prononcé son discours à 8 heures, décision administrative à minuit, les types sont obligés de fermer. On attend plutôt quand même du secrétaire d'État au tourisme des propositions concrètes pour les acteurs économiques. Non, le message qui nous délivre, c'est un message qui est propre à ce qu'on appelle le gouvernement des conduites, c'est de nous dire ah attention, si vous ne vous comportez pas très bien, eh bien en l'occurrence pas de vacances pour vous. Mais enfin, c'est véritablement un État qui n'est plus dans son rôle. En l'occurrence, c'est un État en effet infantilisant qui ne joue pas sa mission, qui est sa mission en effet aujourd'hui de protéger le tissu économique et de protéger les Français.
Il y a un rêve orwellien en ce moment avec ce gouvernement d'Emmanuel Macron, le ministère de la vérité d'un côté, et de l'autre côté, on ne parle que de morale, on ne parle que de morale individuelle, que de responsabilisation individuelle, et la réalité, c'est qu'on ne fait rien, on fait semblant, on met en scène, finalement, une action qui ne sert à rien. Les tests qui ne sont pas assez nombreux, les masques qu'on met 3 mois à commander, et puis des injonctions contradictoires. Finalement, on ne comprend pas. Les 100 kilomètres, je le répète, c'est débile.
Il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est intéressant depuis 48 heures, et on le voit. Vous avez vu quand même la réaction d'un certain nombre de maires qui considèrent aujourd'hui qu'ils n'ont pas les moyens opérationnels pour tout simplement ramener les enfants dans les écoles. Le maire de Saint-Germain s'exprimait, je crois, il y a 24 heures sur une télévision. Il disait que le process qui avait été envoyé par l'administration aux élus pour permettre la rentrée des enfants dans les écoles contenait 63 pages. Donc, il expliquait de manière très pratique que c'était totalement impossible à mettre en œuvre. Donc, on a une administration qui essaye de se couvrir en permanence pour éviter, en effet, tous les reproches qui lui ont été faits déjà depuis quelques semaines. Et il y a également cette lettre, qui, à mon sens, dans les annales de la République est rare, de ces patrons d'entreprises de services publics que sont les entreprises de transport, SNCF, RATP, qui ont saisi le Premier ministre dans la semaine pour lui dire que dans l'état actuel des choses, il n'était pas en capacité, au regard des consignes qui étaient celles de l'exécutif, de remettre en marche les transports de manière nominale. Donc, il y a quand même, si vous voulez, parmi les agents qui sont aujourd'hui en charge d'assurer les opérations de déconfinement sur le terrain, une prise de conscience d'abord de la difficulté à les mettre en place, mais aussi, disons, une forme, j'allais dire, j'emploie le mot à dessein, même s'il est un peu exagéré, une forme de rébellion contre la façon dont aujourd'hui l'État gère cette situation.
On y revient dans un instant. On y revient. On marque une toute petite pause. On marque une toute petite pause. L'Élysée a répondu au maire. On va regarder au cas par cas. Au cas par cas, nous ne voulons brusquer personne. Donc voilà, c'est une réponse pour le moins étonnante. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on a Olivier en ligne avec nous. Bonjour Olivier, vous vouliez réagir.
Bonjour, comment allez-vous?
Bonjour, très bien, et vous?
Écoutez, on confine, on fulmine, hein, oui. Et on observe. Le climat est un petit peu anxiogène parce que, enfin, personnellement, hein, je vais vous donner un peu mon ressenti, mais la médiocrité ambiante et le sentiment qu'on a qu'ils n'ont aucune maîtrise, sanitairement en tout cas, ça met un climat extrêmement anxiogène et c'est assez inquiétant. D'un autre côté, si on écoute certains experts, dont Raoult, alors moi je suis pas expert, mais j'écoute, hein, j'observe, je lis, j'ai le temps, je suis confiné. Certains disent bon bah c'est peut-être une épidémie, une pandémie saisonnière, et elle va s'arrêter, on ne sait pas pourquoi, mais elle va s'arrêter, et donc l'enjeu du déconfinement, le cas échéant, ça sera différent. Après, si on a un rebond, ça veut dire qu'on a affaire à un autre virus, et le rebond, si on doit y passer, il va être vilain, parce qu'ils sont vraiment pas à la hauteur. On a eu un confinement politique, là on a un déconfinement économique. Ils ont aucune maîtrise sur tout ce qui est sanitaire. On maîtrise pas notre production. Maintenant on va vendre les masques aux gens alors qu'ils sont distribués dans tout le Maghreb et dans toute l'Afrique. Honnêtement, moi je suis à moitié algérien. J'ai l'impression d'être au bled il y a 50 ans quoi. En termes de et je le dis voilà et je suis admiratif de ce qu'a été capable de faire le Maroc ou de ce qu'a fait l'Algérie de ce point de vue-là. On est la 7e puissance économique. Alors ma partie Limousine là, si vous voulez, elle est chatouillée quand même. Mais c'est pas la France ça. Vous voyez, ils sont pas à la hauteur et ils sont dangereux parce qu'en plus on nous ment sur les chiffres. Il y a une tribune du Midi Libre que j'ai vue qui expliquait qu'on n'avait pas comptabilisé les gens qui étaient morts chez eux et qu'on dépistait pas, ce qui veut dire qu'on serait à plus de 30 000 morts. On aurait pu éviter, hein. Moi, à un moment donné, c'est un peu facile de dire le temps n'est pas à la polémique, mais nous, on est confinés, on se demande si la mesure tenait la route, et la polémique, elle gronde, hein. Elle gronde, et forcément, elle avance et elle est légitime.
C'est pas la polémique.
Alors, Alexis Poulain.
La colère, si
merci
vous préférez.
De témoignage. La
c'est la colère. Ouais.
Il y a la colère. Ouais. Non, mais ce que vous dites est très juste.
Juste un mot sur le Maroc. Sur le Maroc, c'est qu'ils sont producteurs de masques. Ils ont des usines.
Producteurs et
ils les fabriquent.
Ouais.
Producteurs, distributeurs. Moi, j'ai des amis marocains qui me disent que la boîte de 50 masques, elle vaut 2 euros là-bas.
Non, mais nous,
allez-y, Alexis.
On a un acteur à l'Élysée qui parle de guerre, qui fait des choses, qui se met en scène, mais qui ne fait rien. À part se mettre en scène. Et ça commence à se voir. Et je crois que ce témoignage est important. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux par le mensonge qu'ils ont mis en place de manière systématique. Le fait de s'enferrer dans ce mensonge plutôt que de dire pardon, on s'est trompé. Donc maintenant, on a besoin de tout le monde. Et allons-y, on va faire des masques et des tests. Mais non, on s'enferre dans le mensonge. Là où ça pouvait être drôle en disant bon, ils sont vraiment nuls, on rigole, c'est devenu dangereux. Et c'est dangereux à plusieurs titres. Pour l'économie, en premier. Enfin, ce confinement ne peut pas durer. On peut pas accepter 40%, 50% de faillite dans des secteurs entiers. C'est dangereux pour la santé. Les gens qui sont confinés, finalement, comme disait Sophie, perdent en immunité quand ils vont sortir. On ne sait pas ce qui va se passer. Puis pour le moral. Et c'est dangereux tout simplement pour la réponse à une prochaine vague ou à une autre crise de cette ampleur-là. On a affaire à une batterie de poulets sans tête qui essaie de se justifier et dont maintenant 80% du temps est généré à essayer de se couvrir des procès qui vont venir. Non, il faut que je sorte quand même sans finir en prison.
Moi,
il faut rentrer en prison, que je sois rassuré. Attends, qui gère la crise ?
Je ne suis pas d'accord avec
Sophie.
Quand vous dites qu'il ne fait rien, je trouve qu'ils en font trop. Ils donnent des coups de
volant. Ah non, ils ne font que parler.
Ils empêchent. Le pouvoir de dire non, le pouvoir d'empêcher.
Le pouvoir du guichetier. Voilà.
On taxe des amendes, c'est honteux ce processus, comment voulez-vous?
Ah bah, les PV,
féliciter les Français d'avoir été formidablement responsables et en même temps leur foutre une amende et qu'ils m'a donné dehors, c'est pas possible.
Je voudrais qu'on revienne sur la lettre de ces 300 maires adressée au gouvernement pour leur demander de ne pas réouvrir les écoles le 11 mai.
Ça
sent un peu... Pardon ?
à Paris, les écoles primaires ne réouvrent pas le 11 mai. C'est déjà acté. Moi, qui ai une fille scolarisée, ma fille ne peut pas aller à l'école puisque l'école ne sera pas ouverte. On attend officiellement que Paris passe en zone orange pour pouvoir réouvrir les écoles élémentaires. Donc, il est acté que les écoles ne réouvrent pas le 11 mai à Paris.
Mais là aussi, on n'y comprend pas grand-chose. Arnaud, Benedetti, Alexis.
Écoutez, d'abord, il y a une contradiction. Je rappelle qu'en France, l'école est obligatoire. En l'occurrence, on fait fi de cette obligation. On fait fi de cette obligation, en l'occurrence, et on dit explicitement que cela se fera à partir de la base du consentement des parents. Mais ce qu'on voit clairement aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que globalement, ils y vont la peur au ventre. Ils y vont la peur au ventre parce qu'ils savent très bien que le risque qu'un enfant, par exemple, soit infecté, voire plusieurs enfants soient infectés, peut susciter, là aussi, des mises en cause de l'État. Et les maires qui sont chargés de mettre en musique cette mesure, ils demandent tout à fait légitimement, en l'occurrence, une protection qui est une protection judiciaire, en l'occurrence, pour éviter ce type de mise en cause. Et il est clair aussi que les mesures qui sont proposées par l'administration pour que ce retour à l'école des enfants se fasse dans de bonnes conditions sont des mesures qui, pour un certain nombre de maires, sont totalement inapplicables. Et on peut se poser la question aussi, sur le plan uniquement scolaire, on sait qu'il y a des paramètres économiques qui aujourd'hui déterminent le retour des enfants à l'école, mais sur un plan scolaire, ramener des enfants au mois de mai, ou éventuellement ramener, j'ai entendu, des lycéens fin mai pour une école qui s'arrête troisième semaine ou dernière semaine de juin, il y a quelque chose quand même d'assez ubuesque dans cette décision. Nous avons la comparaison avec les exemples étrangers, puisque l'Italie, elle, a décidé clairement que les enfants ne reprendraient pas l'école avant le mois de septembre.
Quand je parlais de punaises en tête, il faut savoir que c'est une question d'honneur pour le ministre de l'Éducation nationale. C'est pas une question de santé publique, c'est une question d'honneur. Donc, c'est dire le niveau de n'importe quoi.
Alexis, le ministre de l'Éducation nationale apparemment a appris cette décision
un quart d'heure après le discours de Macron. C'est bien tout le problème, c'est qu'on a affaire à un acteur qui se met en scène et derrière des gens qui courent, qui ne savent pas comment faire. Et là, ils essaient d'être gentils pour pas contredire le roi, mais malheureusement, il se trouve que non, la décision, sire, votre décision était quand même difficile à mettre en œuvre. La tendance ne suit pas. Il va falloir remonter à Versailles.
Ouais, mais derrière cette lettre, il y a effectivement, au-delà des données pratiques et cette lettre qu'évoquait Arnaud Benedetti de 62 pages envoyée dans les écoles, la responsabilité des maires, qui pourraient être attaqués. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis, puisque vous avez vu la réponse de l'Élysée qui
personne
est un petit
va
peu
y aller à l'école.
On va voir au cas par cas, on peut pas ouvrir au cas par cas des écoles.
Apparemment, il y a eu un sondage il y a 10 jours où 2/3 des parents ne sont pas favorables au retour de leurs enfants à l'école.
Et enfin, est-ce qu'on peut quand même rappeler que les enfants sont pas malades? Je touche du bois et c'est quand même formidable. En dehors, je suis d'accord de certains cas un peu étranges de la maladie de Kawasaki, mais que est-ce qu'on peut un tout petit peu rappeler que 98% de la population ne sera que malade, pas gravement du tout, et que les enfants sont pas atteints, parce qu'on devient fou là.
Ils peuvent être contaminants, on ne sait pas grand chose sur ce virus. Puis il y a ce syndrome de Kawasaki qui fait que on peut comprendre que certains parents hésitent à renvoyer leurs enfants à l'école. Donc voilà, il faut rester quand même relativement prudent. Merci à tous les quatre. Merci à vous d'avoir été avec nous sur Sud Radio 10h et 10h. C'est André Bercoff qui sera avec vous en pleine forme, j'en suis persuadée. C'est à vous, cher André. Très bonne journée sur Sud Radio.